Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Depuis quelques mois, nous partageons avec vous l'expérience des pères du désert, qui vécurent essentiellement au Moyen-Orient et en Russie, depuis le IIIe siècle jusqu'à nos jours. Leurs lettres s'adressent à tous, et ainsi qu'aux moines de leur monastère. Elles expriment avec intensité leur expérience de Dieu. Tous ces pères nous enseignent comment quitter le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Poursuivons aujourd'hui nos lectures avec Jean Cassien et ses entretiens à propos de la protection de Dieu. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. La grâce de Dieu est notre libre arbitre. On nous donne cet avertissement : faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et l'on nous fait cette promesse : je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai dans leur poitrine un esprit nouveau, et j'ôterai de leur chair leur cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes commandements et qu'ils gardent mes lois. Le Seigneur nous intime ce précepte : purifie ton cœur de toute malice, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Et voici que le prophète lui demande cela même qu'il nous ordonne : crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. Vous me laverez, et je serai plus blanc que la neige. Il nous est dit : allumez en vous la lumière de la science. Puis il est dit de Dieu, il enseigne à l'homme la science. Le Seigneur donne la lumière aux aveugles. Et nous-mêmes, nous demandons avec le prophète, donnez la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme jamais dans la mort. Quelle conclusion tirer, sinon que tous ces textes déclarent à la fois et la grâce de Dieu et notre liberté. Parce que l'homme peut s'élever parfois de son propre mouvement au désir de la vertu. Mais a-t-il toujours besoin d'être aidé par le Seigneur ? Ne jouis pas de la santé qui veut, nos désirs ne suffisent pas à nous délivrer de la maladie. Que sert de souhaiter la grâce de la santé si Dieu, qui nous donne l'usage de la vie, ne nous accorde aussi la force et la vigueur ? On ne peut douter que toute âme possède naturellement les semences des vertus, déposées en elle par le bienfait du Créateur. Mais si le secours divin ne les éveille, elles ne parviendront pas à la parfaite croissance. Parce que selon le bienheureux apôtre, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu seul compte, qui donne la croissance. Le livre dit du pasteur enseigne aussi très clairement que l'homme possède la liberté de pencher soit d'un côté, soit de l'autre. Deux anges, est-il dit, sont attachés à chacun de nous, l'un bon, l'autre mauvais. Mais l'option appartient à l'homme, à lui de choisir celui qu'il suivra. Tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple incrédule et rebelle. Nous l'invitons à notre tour quand nous lui disons « Tout le jour, j'ai tendu les mains vers vous. » Il nous attend. « Le Seigneur attend, dit le prophète, pour avoir pitié de vous. » Et nous l'attendons. Je ne me suis point lassé d'attendre le Seigneur et il m'a regardé. J'ai attendu votre salut, Seigneur. Il nous fortifie. Je les ai instruits et j'ai fortifié leurs bras. Et ils ont médité le mal contre moi. Il nous exhorte à nous fortifier nous-mêmes. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez des genoux qui chancellent. Jésus crie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et le prophète crie vers lui. Je me suis épuisé à crier, ma gorge s'est enrouée, mes yeux se sont consumés, tandis que j'espère en mon Dieu. Le Seigneur nous cherche. J'ai cherché, et il n'y avait point d'homme. J'ai appelé, et personne n'était là pour me répondre. Et l'épouse le cherche lui-même avec ses plaintes pleines de larmes. Sur ma couche, pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon âme chérit. Je l'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne souhaite point du tout que le Seigneur ne permette pas la tentation, mais qu'il ne soit pas tenté au-delà de ce qu'ils peuvent supporter. Que la tentation soit permise, voilà qui prouve le pouvoir de la liberté humaine. Qu'ils ne soient pas tentés au-delà de leurs forces, ceci montre, au contraire, la grâce du Seigneur modérant les assauts de la tentation. Tous ces faits confirment que la grâce divine excite le libre arbitre, mais ne le protège ni ne le défend, de manière qu'il n'ait plus à faire effort par lui-même pour lutter contre ses ennemis spirituels. Vainqueur, l'homme reconnaîtra la grâce de Dieu. Vaincu, il reconnaîtra sa faiblesse. Ainsi, apprendra-t-il à ne pas compter sur sa propre force, mais toujours sur le secours divin et à recourir sans cesse à son protecteur. Voyons maintenant le jeu subtil entre la grâce de Dieu et notre liberté. Premièrement, c'est le don de Dieu qui allume en nous le désir de tout ce qui est bien. Mais notre liberté demeure entière de pencher soit d'un côté, soit de l'autre. Deuxièmement, c'est également un effet de la grâce que nous pratiquions les vertus, mais sans que le pouvoir du libre arbitre soit étouffé. Et troisièmement, la vertu, une fois acquise, la persévérance est encore un présent de Dieu, mais notre liberté, tout en s'y dévouant, ne se sent pas captive. Le Dieu de l'univers opère tout en tous. Mais il faut croire que cela consiste pour lui à exciter, protéger, affermir, et non pas à nous ravir la liberté qu'il nous a lui-même donnée. La foi ne vient pas de l'intelligence, mais c'est l'intelligence qui vient de la foi, selon qu'il est écrit « Si vous ne croyez, vous ne comprendrez pas ». Et aussi bien comment il peut se faire que Dieu opère tout en nous et qu'en même temps, tout soit attribué à notre libre arbitre. C'est ce que le sens et la raison de l'homme sont impuissants à comprendre pleinement. Si vous voulez élever dans votre cœur le sacré tabernacle de la science spirituelle, purifiez-vous de la souillure de tous les vices et dépouillez les soucis du siècle présent. Il est impossible que l'âme occupée, même légèrement, des soins envahissants de ce monde, mérite le don de la science, ou soit féconde en intelligence spirituelle, ou retienne avec fermeté les saintes lectures qu'elle a faites. C'est l'indice évident d'une âme tiède et superbe de recevoir avec ennui et indifférence le remède des paroles salutaires, quand même il y aurait de l'excès dans l'assiduité qu'on met à les lui faire entendre. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais à celui qui est dans le besoin, cela même qui est amer paraît doux. Celui dont l'âme n'est point pure ne saurait acquérir la science spirituelle si assidu qu'il puisse être à la lecture. On ne confie point à un vase fétide et corrompu un parfum de qualité, un miel excellent, une liqueur précieuse. Le vase, pénétré de senteurs repoussantes, infectera plus facilement le parfum le plus odorant, qu'il n'en recevra lui-même quelque suavité ou agrément. Car ce qui est pur se corrompt plus vite que ce qui est corrompu ne se purifie. Ainsi, le vase de notre cœur, s'il n'est d'abord entièrement purifié de la contagion fétide des vices, il ne méritera pas de recevoir ce parfum de bénédiction dont parle le prophète. Comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, coule sur la barbe d'Aaron et descend sur le bord de son vêtement. Non plus qu'il ne gardera sans souillure la science spirituelle ou les paroles de l'Écriture, qui sont plus douces que le miel et que le rayon rempli de miel. Car quelle communication y a-t-il de la justice avec l'iniquité? Quelle société de la lumière avec les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial? Sur ceux qui paraissent avoir quelque semblant de science, ou qui tout en s'adonnant avec ardeur à lire les volumes sacrés et à les apprendre de mémoire, ne quittent point les vices de la chair, les prophètes ont cette expression fort heureuse. Comme d'un anneau d'or au nez d'un pourceau, ainsi en va-t-il de la beauté dans une femme de mauvaise vie. Car quel avantage pour l'homme de posséder les joyaux des célestes paroles et les beautés sans prix des Écritures s'il s'enlise dans la boue par ses œuvres et ses pensées. Ne semble-t-il pas alors les fouiller comme une terre immonde, de manière à y mettre en pièces et les souiller dans le bourbier fangeux de ses passions impures? Il est écrit « Ne dis rien à l'oreille de l'insensé, de peur qu'il ne tourne en dérision la sagesse de tes discours. » et ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et que se tournant contre vous, ils ne vous déchirent. Ainsi, il vous faut cacher aux hommes, de cette sorte, les mystères des sens spirituels, de manière que vous puissiez chanter en toute vérité « J'ai tenu vos paroles cachées dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre vous. » Vous me direz peut-être, « À qui donc dispenser les secrets des divines Écritures ? » Le très sage Salomon vous l'apprend. « Versez l'ivresse à ceux qui sont dans la tristesse, et donnez à boire du vin à ceux qui sont dans la douleur, afin qu'ils oublient leur misère, et qu'ils ne se souviennent plus dorénavant de leur souffrance. » C'est-à-dire à ceux que le regret de leur première vie abat sous le chagrin et la tristesse, versez abondamment la joie de la science spirituelle comme un vin qui réjouit le cœur de l'homme. Réchauffez-les en les enivrant de la parole du salut, de peur que se laissant submerger par la continuité de leur chagrin et un mortel désespoir, ils ne soient absorbés dans une excessive tristesse. Mais pour ceux qui vivent dans la tiédeur et la négligence, sans éprouver dans leur cœur le plus léger remords, voici comme il en est parlé. Celui qui vit dans les douceurs et sans souffrance sera dans le dénuement. Il est constant que deux causes rendent inefficace la doctrine spirituelle, ou bien celui qui enseigne n'a pas expérimenté ce qu'il dit, et tous ses efforts pour instruire l'auditeur ne sont qu'un vain bruit de parole, ou bien c'est l'auditeur qui est mauvais et rempli de vices, et son cœur endurci demeure fermé à la salutaire et sainte doctrine de l'homme spirituel. De ceux qui lui ressemblent, Dieu dit par le prophète, « Le cœur de ce peuple a été aveuglé, et il est devenu dur d'oreille, et il s'est bouché les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles, et que leur cœur ne comprenne, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. »
Oh,
Se guérir soi-même est plus difficile et plus important que de guérir les autres. Aussi bien est un plus grand miracle d'extirper de sa propre chair le foyer de la luxure que d'expulser les esprits immondes du corps d'autrui. Un signe plus magnifique de contenir par la vertu de patience les mouvements sauvages de la colère que de commander aux puissances de l'air. C'est quelque chose de plus d'exclure de son propre cœur les morsures dévorantes de la tristesse que de chasser les maladies et les fièvres corporelles des autres. Enfin, c'est à bien des titres une plus noble vertu, un progrès plus sublime, de guérir les langueurs de son âme que celles du corps chez autrui. Plus l'âme est élevée au-dessus de la chair, plus est préférable son salut, plus sa substance l'emporte par l'excellence et le prix. Plus grave et funeste serait sa ruine. Parlons maintenant de l'amitié. Parmi toutes les différentes amitiés, il ne s'en trouve qu'une sorte qui soit indissoluble. C'est celle qui a pour principe non la faveur qu'une recommandation concilie, ni la grandeur des services ou des bienfaits reçus, ni quelques contrats ou l'irrésistible poussée de la nature, mais la seule ressemblance de la vertu. C'est là, dis-je, l'amitié qu'aucun accident ne rompt, que la distance ou le temps ne peuvent désunir, ne peuvent effacer bien plus que la mort. Le nœud d'une amitié fidèle et indissoluble ne se forme que là où règne la parité de vertu, car c'est le Seigneur qui fait habiter dans une même maison ceux qui ont un même esprit. La dilection ne peut persévérer sans rupture qu'entre ceux qui ont le même propos, même volonté et s'accordent également pour le oui et pour le non. Si vous désirez vous aussi la garder inviolable, hâtez-vous d'expulser vos vices et de mortifier vos volontés propres. Puis n'ayant plus qu'une même ambition, un même propos, accomplissez vaillamment l'oracle qui comblait de délices l'âme du prophète. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. Ce qui ne doit pas s'entendre des lieux, mais des esprits. Il ne sert de rien, en effet, d'être unis dans une habitation commune si l'on est séparé par la vie et le propos. Au contraire, pour ceux qui sont également fondés en vertu, la distance des lieux ne constitue pas une séparation. Devant Dieu, c'est l'unité de conduite, et non point celle des lieux qui fait habiter les frères dans une même demeure, et la paix ne se conservera jamais entière où les volontés sont divergentes. Le premier fondement de l'amitié véritable est le mépris.